Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
Petite consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel nous disséquerons l'actualité cette semaine. Et on parlera de la positive attitude avec le docteur Guillaume. On parlera également de fumer, c'est mal, et ce sera la piqûre de rappel, docteur Léo. Le mot du soir est fécaloïde, et c'est le mot du médecin, docteur Marion. Et enfin, le pire du forum, là, docteur Julie, vous nous gâtez Tata Caca du 56 qui a avalé l'alliance de son ami. Ça promet, et ça sera en fin d'émission. Allez, à vos stéthoscopes. La consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, enfin en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec une belle brochette de spécialistes. On est quasiment au complet cette semaine. Bonsoir docteur Marion.
Bonsoir docteur Loïc.
Alors vous avez mis votre stéthoscope autour du cou.
Tout à fait, c'est pour me mettre dans l'ambiance.
Très bien, j'espère que ça ne va pas trop vous serrer les carotides et que vous n'allez pas perdre connaissance comme la plupart de nos confrères et consoeurs d'ailleurs. Bonsoir docteur Julie.
Bonsoir.
Ça va mieux?
Ça va.
C'est un petit ça va, j'ai l'impression.
Non, ça va.
Oui. Très bien. Docteur Guillaume, notre docteur matinalier.
Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, toujours.
Toujours très bien.
Toujours.
Et enfin, la belle voix de Radio Campus Paris, cette voix caverneuse et charmante, docteur Léo.
Vous en faites beaucoup, hein, docteur Léo.
Oui, un peu trop, j'ai l'impression. Comment allez-vous, docteur Léo?
Ça va bien.
Allez, très bien. Bah, et si tout va, et bah, on se fait un petit tour de l'actu santé.
Alors cette semaine, on a tous une bonne raison de faire le test de dépistage du VIH et des IST, docteur Loïc.
Et effectivement, c'est la nouvelle campagne de communication de l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation à la Santé, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. Ce spot, vous l'avez déjà sans doute entendu, mais on ne s'en lasse pas, alors on va se le réécouter.
Dans la vie, il y a des moments qui comptent plus que d'autres. Des moments où l'on décide d'être son propre patron. On a tous une bonne raison de faire le test du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Se faire dépister, c'est prendre soin de son avenir. Parlez-en à votre médecin ou appelez SIDA Info Service au 0800 840 800.
Une campagne plutôt sympa et utile avec des actions rigolotes. Vous pouvez par exemple vous faire photographier grâce à des cabines photomatons dans plusieurs gares à Paris avec des hôtesses également qui vous invitent à les utiliser. Les photomatons, hein, ça a l'air sympa quand même. Donc Guillaume, j'ai l'impression que vous allez...
J'adore.
Alors, vous recevez ensuite votre portrait en tirage photo ainsi que la liste des centres de dépistage gratuits les plus proches.
Et en ce moment, ça se passe à la gare de Lyon, en tout cas jusqu'à demain.
Alors on le rappelle une nouvelle fois, le dépistage c'est gratuit et surtout utile. Les traitements contre le sida sont de plus en plus efficaces et limitent surtout le risque de contamination. Bref, un mot d'ordre, faites-vous dépister. Plus d'infos sur le site www.info-ist.fr, au numéro vert SIDA Info Service 0800 840 800 et évidemment sur le site www.sida-info-service.org. Et alors une question, docteur Marion, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais est-ce que vous prenez du Nurofen ?
Eh bien, ça dépend. Ça dépend lequel, surtout.
Et bonne réponse, docteur Marion. Effectivement, vous avez raison. La firme pharmaceutique Rickenbacker, qui fabrique le Nurofen, est accusée en Australie d'avoir vendu du Nurofen sous différents conditionnements selon le type de problème traité. En gros, le Nurofen changeait de nom, mais la molécule et le médicament restaient strictement identiques. Pas très, très joli, joli, tout ça.
Mal au dos ? Parce qu'il cible la douleur, Nurofen à l'ibuprofène agit efficacement pour un soulagement rapide. Nurofen cible la douleur, médicament réservé à l'adulte.
Alors vous l'avez entendu, le Nurofen il sert à plein de choses, mais par contre c'est pas ce qu'a décidé la justice australienne qui a ordonné lundi au géant britannique des médicaments de retirer des étalages certaines boîtes de Nurofen pour cause de publicité mensongère. Le Nurofen était vendu sous différents conditionnements selon le type de problème traité, alors que son principe actif, on le rappelle, 342 mg de lysine d'ibuprofène, restait toujours le même. Le groupe pharmaceutique a accepté la décision tout en niant d'avoir délibérément cherché à tromper le consommateur. Alors c'est pas du tout leur genre, hein, je pense, a désormais 3 mois pour retirer de la vente les boîtes de Nurofen traitant les problèmes de dos, la migraine ou encore les douleurs liées aux règles. Bref, les labos, il faudrait peut-être songer à arrêter de nous prendre complètement pour des gogoles.
Oui Loïc, et puis une bien triste nouvelle.
Effectivement, nous avons appris la disparition du docteur Oscar Keiji Cheya. Ce nom vous êtes sans doute inconnu, mais Oscar était médecin et certains d'entre nous avaient eu la chance de travailler à ses côtés, notamment au Tchad, pour lutter contre la malnutrition infantile et les épidémies de choléra et de méningite qui touchent particulièrement cette zone. Oscar était la gentillesse incarnée, c'était aussi un conteur hors pair. Il n'avait pas son pareil pour animer nos soirées avec ses histoires de magie ou de sorcellerie. Mais Oscar, c'était surtout un grand médecin, au sens clinique aiguisé, aux nombreuses compétences techniques. Compétences qu'il avait décidé de mettre au profit des plus démunis. On le retrouve au micro de Thomas Rozek sur France Culture, nous expliquant le fonctionnement des centres nutritionnels thérapeutiques qu'il supervisait au Tchad.
Sainte, tu sais, le centre pour nous, c'est en fait l'hôpital des malnutris.
Docteur Oscar Keiji Tseya.
Les centres de santé, c'est la porte d'entrée de malades, parce que le centre de santé est dans le village ou dans la communauté. Donc, en ce qui concerne la malnutrition, ça bouleverse le monde. Et s'il y a des complications maintenant, il faut les envoyer à l'hôpital. Mais comme il y a l'aspect malnutrition, il faut aussi un œil spécifique. Parce que c'est tout un cercle vicieux. La malnutrition favorise l'infection parce qu'on n'a plus d'anticorps. Mais l'infection détruit l'organisme et le rend malnutri. Donc, il y a un peu un hôpital spécial. C'est comme ça, tu vois, ici, nous avons un hôpital de malnutrition qu'on appelle le CNTH, le Centre Nutritionnel Thérapeutique, dans l'hôpital.
Oscar avait 52 ans, il était père de 3 enfants, et c'est un collègue et avant tout un grand monsieur que nous perdons. Salut l'ami.
Nania sungayo pasina pasie nakei kasilubi na kozonga atandeleo mopembo ezalinde liwateo nakei kasilubi na kozonga oyanga bako yambanga mopembo ezalinde liwateo kozonga mboka nakei kasilubi na kozonga aye bayama.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, c'était Luca Conza et on retrouve tout de suite eh bien, l'astuce santé bonheur. Alors là, écoutez, du Rick Hazard, il faut imaginer le studio, tout le monde danse. Tout le monde danse et on danse d'avance en écoutant votre voix, docteur Guillaume.
Merci, bonsoir.
Bonsoir, vous nous parlez de la positive attitude.
Eh oui, adopter la positive attitude pour lutter contre la dépression saisonnière, c'est mon astuce santé de la semaine.
On dirait une raffarinade, mais c'est plutôt sympa.
Alors l'hiver est là, il fait nuit plus tôt et comme chaque année, le spleen hivernal s'installe chez les personnes sensibles au manque de lumière. Ce mal-être touche d'ailleurs 4 à 6% de la population française.
Et on n'est pas trop touché, ça va. Ça va.
Il touche quand même notre docteur Marion.
Voilà.
C'est pour cette raison qu'on a plongé le studio dans le noir ce soir et puis après on a rallumé la lumière, ça suffit ces conneries. Alors... Mais alors pour... Pardon.
Restez avec nous. En tout cas, vous n'êtes pas touché par le film hivernal,
moi,
faut le dire,
docteur
Guillaume.
Alors, pour traiter la dépression hivernale, il y a quand même 2 traitements les plus répandus, donc la luminothérapie. Rien de mieux qu'une bonne cure de lumière pour garder le sourire en hiver. Mais avant de s'adonner à cette pratique, je ne rappelle, ce ne sont pas les UV, ça n'a rien à voir. Il est recommandé d'avoir l'avis d'un médecin. Voilà. Cette méthode consiste à s'exposer au moins 30 minutes à la lumière du matin avec une lampe de 10 000 lux. C'est en luxe. Pourquoi
c'est en luxe, oui, mais est-ce que c'est cher? Bah, ça, c'est 10 000 lux, ah, bah, quand même.
Donc, il est placé à 30 cm du visage. Donc, c'est quand même...
Ah oui, je pense qu'il ne faut pas prendre l'halogène, quoi.
Non, ça marche pas.
Continue, docteur. Continue,
donc ce traitement permet de resynchroniser l'horloge interne et réguler le rythme circadien de 24 heures. Donc son efficacité est observée dès la première semaine de traitement.
Est-ce que c'est observé par les rougeurs sur le visage ou pas? Non.
J'ai pas encore testé, je vous dirai ça la semaine prochaine. Puis il y a un truc plus fort qu'utilise le docteur Marion, ce sont les antidépresseurs.
Moi j'ai l'impression que le docteur Marion est surdosé en antidépresseurs.
J'ai surtout l'impression que c'est toujours moi qui prends. Hein.
Docteur Marion, vous êtes opposé. Voilà, vous voulez que je choisisse quelqu'un.
Et vous êtes en face du docteur Guillaume, voilà, c'est pour ça. Oh là là, pas de paranoïa.
Fort, hein, pas du tout. Donc les antidépresseurs, Marion, il ne faut pas avoir honte. Hein. Voilà. Ils sont prescrits dans les cas de dépression saisonnière et puis c'est là, je vais pas réussir. Je suis désolé, donc il faut attendre hein, plusieurs semaines avant d'apprécier le résultat. Mais alors, malgré l'efficacité des traitements, la dépression saisonnière, également appelée trouble affectif saisonnier, TAS, réapparaît tous les ans. Alors, les chercheurs de l'Université du Vermont aux États-Unis, parce qu'encore et toujours les Américains, ont décidé d'adapter la thérapie cognitivo-comportementale TTC pour les intimes. Ah,
TCC, pas TTC, TTC c'est tout texte. TCC, on va voir tout.
TCC pour les intimes.
Exactement. Vulgaire.
Habituellement pratiqué sur des personnes souffrant de dépression permanente aux patients atteints par la dépression saisonnière. Donc cette TCC, repose sur le fait d'aider le patient à remplacer des schémas de pensée négatifs afin d'endiguer les comportements pessimistes et de stimuler sa bonne humeur. Donc cette alternative médicale est bénéfique. Donc d'une part, elle traite les patients sur le long terme, je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui. D'autre part, la TCC encourage les patients à ne pas abandonner le traitement. En moyenne, les deux tiers des malades abandonnent la luminothérapie après la première séance. Ça doit être sans doute à cause des plaques rouges sur le visage. Alors, pour les besoins de leur recherche, les auteurs de l'étude ont étudié deux groupes de patients. Ils ont appliqué la TCC au traitement de la dépression saisonnière en tentant de modifier les pensées négatives liées à l'hiver de 88 adultes souffrant de TAS. Donc, si vous m'avez perdu, c'est TAS.
C'est le trouble affectif saisonnier.
Voilà, on y est. Tandis que 96 autres suivaient les séances de luminothérapie. Alors après le premier hiver, les résultats publiés dans The American Journal of Psychiatry, ça passe.
Alors, 100% des patients se sont suicidés, c'est ça?
Non, on n'était pas très bon parce qu'aucune différence n'a été mise en évidence entre les deux groupes. Alors je sais, vous me dites, mais pourquoi je parle de ça? Du coup, ça sert à rien. Mais c'est pas fini, comme dirait une célèbre publicité. Après l'hiver suivant, seuls 27,3% des patients soumis à la TCC ont rechuté contre 45,6% des malades sous traitement de luminothérapie. Donc la moitié seulement a rechuté, donc c'est pas mal. Donc travailler sur les idées, les émotions, les comportements qui maintiennent l'état dépressif permet donc de lutter contre la dépression saisonnière. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, adopter la positive attitude.
Positive attitude.
C'est magique. Mais il n'y a que dans cette radio où on peut passer du horrible.
Donc
s'excuse auprès des auditeurs.
On a quand même eu du Rikazaraï et du Lori dans votre chronique, docteur Guillaume.
Voilà, donc vous avez compris, chasser mauvaises idées, penser positivement, comme vient de le dire cette grande philosophe Lori.
Un proverbe brésilien.
Un proverbe brésilien dit, mieux vaut rester rouge 5 minutes que jaune toute sa vie. Alors ça n'a pas spécialement de rapport.
Mais si, avec l'halogène.
Je me dis, pourquoi pas avec la luminothérapie. Je me suis dit, voilà quoi.
Merci docteur Guillaume. Et toujours en riant, eh bien on va se faire les infos qu'il faut. Quoi de neuf, docteur Marion? J'ai l'impression qu'on parle de l'orgasme cette semaine.
Tout à fait. Et là, votre voix telle que vous l'avez faite ne nous donne pas envie d'en avoir.
On parle de l'orgasme cette semaine, non?
Tout à fait, bien sûr. En fait, parce que le 21 décembre, c'est-à-dire lundi, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Je pense que peu de gens sont au courant. Et du coup, je voulais passer ce message.
De l'orgasme ou de la journée?
Peut-être des deux.
Je pense qu'il y a deux soucis à ce niveau-là. En tout cas, le 21 décembre, parce que c'est aussi le jour le plus court de l'année, on a envie de rester longtemps au lit, longtemps, et souvent pas tout seul. Guillaume.
Ok, ouais, vous réglerez vos comptes après. Alors ça existe depuis quand cette journée?
Alors depuis 2006, en fait, on célèbre la journée mondiale de l'orgasme, lancée à l'initiative d'une association anglophone, la Global Orgasm. Selon d'ailleurs ses deux fondateurs, si nous faisons tous l'amour en même temps, une vague d'ondes positives, Guillaume,
eh ben on y vient, la positive attitude,
voilà,
envahirait le monde et réglerait à mon avis un certain nombre de problèmes. En tout cas, c'est un petit peu compliqué à mettre en place, sachant en tout cas que d'après de récentes études, les Françaises ont du mal à atteindre l'orgasme plus que les autres. Et oui, Vous ne le saviez pas. Ah, et bah, ça vient de sortir. Ouais. Donc voilà, donc du coup j'informe donc nos auditeurs et l'ensemble de l'équipe ici aujourd'hui qu'il vous reste 2 jours pour trouver le partenaire idéal pour passer cette journée et vous entraîner afin de renverser cette tendance. Et je compte sur vous.
Très bonne mission.
Merci, oui, merci docteur Marion en tout cas. On va essayer de renverser cette tendance en écoutant justement un peu de musique. On écoute tout de suite Drame de Chouk sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, l'émission Petite Consultation entre amis. On retrouve tout de suite notre piqûre de rappel.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux. C'est celle profonde et caverneuse de notre docteur Léo. Et cette semaine, vous nous parlez, docteur Léo, du jour où Richard Doll a déclaré officiellement que fumer, c'est mal. Fameux jour, c'était le 26 juin 1954, si je ne m'abuse.
Effectivement, et aujourd'hui, donc, on ne va pas se pencher sur un thème inconnu et sensationnel, mais on va plutôt délivrer une petite piqûre du rappel sur déjà du bien ressassé, les effets nocifs du tabac. Alors, ça ne sonne pas très attrayant dit comme ça, mais ça ne nous empêchera pas de parler un peu de complot, de lobbying et de monstre foire.
Oh, j'adore. Ah, continuez.
Le 26 juin 1954, Richard Doll, un personnage aux contradictions aussi fantaisiste que ses cravates, mais surtout médecin épidémiologiste, épidémiologiste britannique publie un article dans le British Medical Journal et celui-ci porte justement sur le lien entre cancer du poumon et tabagisme. Alors pour la première fois, il est scientifiquement prouvé et établi que le tabac c'est mal. Nous sommes en 1954, c'était il y a 60 ans. C'est à l'époque de la présidence de René Coty, du retrait de la France d'Indochine. C'est donc il y a longtemps, bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine.
Très très lointaine.
Voilà. Bon, j'espère que tout le monde aura saisi la référence au-delà de la voix un peu bizarre. Bref. Si j'insiste sur cette temporalité aussi longue, c'est pour montrer que ce qui est saisissant dans toutes ces affaires, c'est pas tellement les recherches successives qui ont démontré la nocivité du tabac, mais plutôt les efforts réussis d'ailleurs des industries du tabac pour amoindrir, corrompre et ralentir un débat de santé publique. Du coup, j'ai eu envie de diviser cette chronique en 2 points. Donc d'abord, détailler très rapidement les effets néfastes et bien connus du tabac, pour dans un second temps aborder la manière avec laquelle l'industrie du tabac a bloqué une vérité scientifique dans le seul et unique but d'engranger des dollars.
Vous suivez toujours la conférence du docteur Léo sur le tabac. Vous êtes sur
en
Radio...
En direct du Collège de France.
Docteur Léo, allons-y pour la petite liste des faits délétères du tabac.
Alors, hormis le fait que ça pue et que ça oblige à sortir des bars chauds l'hiver pour s'en griller une, la clope est facteur de cancer à 1 sur 3 et environ 90% des cancers du poumon, de maladies cardiovasculaires, donc les infarctus, les AVC. Ça facilite les maladies respiratoires, ça pourrit les dents, ça augmente l'impuissance sexuelle et réduit la fertilité.
Tout ça n'est pas très bon pour la journée de l'orgasme.
Exactement, le 21 31 décembre, pas de cigarettes, que des orgasmes. Voilà. Au-delà de ça, c'est aussi un business répugnant dont les principaux acteurs n'hésitent pas à passer par la contrebande pour échapper aux douanes et aux taxes pour booster la consommation dans différentes parties du monde. Et pour la petite anecdote, Mokhtar Belmokhtar, qui est d'un des piliers d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont on ne sait toujours pas s'il est d'ailleurs mort ou vivant, était surnommé Mister Marlboro. Voilà, donc la cigarette, ça ne fait pas forcément du bien au développement, ni du corps humain, ni de certaines régions. Pourtant, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant avec l'industrie du tabac. Elle tue ses clients, mais arrive toujours à en attirer des nouveaux. Alors comment ? Par quels moyens ? Comment les cigarettiers ont-ils fait pour entraver les politiques de contrôle du tabac ? Enquête.
Enquête exclusive avec le docteur Léo. Zone interdite, zone autorisée ce soir sur le tabac. Docteur Léo, vous revenez avec nous et bien sur le tabac.
Exactement, en direct. Eh bien, ces industriels s'appuient sur le doute un peu et sur l'argent beaucoup. Le doute, c'est la base de toute recherche scientifique. Eh bien, à coups de millions, ces industries vont financer des recherches qui vont avoir pour but non pas de décrédibiliser des vérités existantes, mais pour en proposer des alternatives. Par exemple, elles vont doper la recherche biomédicale, non pas pour trouver des remèdes, ça les intéresse pas, mais pour montrer qu'il existe des prédispositions génétiques à certaines maladies que d'autres recherches, justement, attribuent largement à la cigarette. Elles vont ainsi diluer l'information scientifique, instrumentaliser ce doute scientifique pour maintenir une controverse dont elles savent très bien qu'elle n'a pas lieu d'être. Donc toute leur stratégie va être de créer une narration, mais pas forcément une vérité, donc une narration alternative favorable au monde du tabac. Et cette narration, elle est incroyablement minoritaire, mais elle est terriblement écoutée parce que l'industrie du tabac, par les profits qu'elle réalise, est capable de s'ouvrir des réseaux scientifiques, médiatiques et politiques importants. Donc en résumé, on a un cocktail explosif, des multinationales sans scrupules, des chercheurs achetés, des hommes politiques et des médias complices. Vous mélangez tout ça bien fort et vous obtenez d'une part une considérable source de nuisance et d'autre part une belle manipulation. Donc ces techniques, elles ne sont pas l'apanage évidemment des industries du tabac. On retrouve le même genre de processus mis en place par les climato-sceptiques par exemple. Et peut-être qu'on a ici un sujet pour une autre piqûre de rappel.
Merci docteur Léo. Enfin tout ça, ça nous donne un peu envie de vomir et justement c'est un peu le mot du soir.
Docteur, paraît que vous êtes docteur parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors le mot du soir, docteur Varion, c'est fécaloïde. Un lien avec le vomissement et un lien un peu finalement avec les odeurs de tabac aussi, j'ai envie de dire.
Pourquoi pas, effectivement, ça peut arriver. En tout cas, fécaloïde. Fécaloïde, c'est d'abord un adjectif pour qualifier une substance qui a l'aspect et l'odeur des matières fécales.
C'est sympa.
Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que sont des matières fécales au cas où, eh bien c'est le caca, hein, le caca.
Merci. Bon, je pense que tous les auditeurs ne sont pas complètement gogol
non plus.
Que de lumière.
D'ailleurs, dans certains cercles restreints, on dit j'ai envie de faire cacou. Pour les plus sobres.
Bon, c'est joli en tout cas.
Bref, on parle souvent de vomissements en fait, fécaloïdes. On qualifie les vomissements de fécaloïdes. À la différence d'ailleurs des vomissements habituels, là, on vomit des substances qui ont déjà atteint l'intestin.
Donc si je ne m'abuse, on vomit du caca en fait, hein, c'est ça.
On vomit du caca,
c'était le mot poétique, mais alors comment on en arrive là, docteur Marion ?
Alors, cela est souvent lié à une interruption de l'évacuation des selles à cause d'une obstruction prolongée au niveau des intestins. Pour tout vous dire, le week-end dernier, je me suis posé beaucoup de questions par rapport au risque donc de l'occlusion intestinale. En effet, une personne proche et connue de tous a ingéré un corps étranger. Enfin bref, un
objet. On en parle,
objet,
j'ai l'impression, dans quelques minutes. Hein.
Un objet m'appartenant. Mais nous nous sommes fait beaucoup de soucis, surtout en l'imaginant avoir ces fameux vomissements fécaloïdes.
Alors concrètement, quels sont les risques de ces vomissements fécaloïdes ?
À vrai dire, le risque, c'est l'occlusion intestinale en elle-même. En effet, si on a des vomissements fécaloïdes, on peut mourir tout simplement, c'est le symptôme d'une occlusion intestinale.
Donc,
Et donc ce symptôme nécessite bien sûr une intervention chirurgicale rapide pour éviter d'aller jusqu'au décès.
Je reviens un peu sur votre histoire, mais dites-nous qui c'est alors du coup, c'est cet ami très proche.
Non, je ne pourrais pas, je tairai cette histoire pour lui éviter d'être reconnu et lynché. Et ma chronique s'arrêtera là pour aujourd'hui.
Très bien, mais on va enchaîner avec une chronique et j'ai l'impression qu'elle est quand même en lien, docteur Julie.
Je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Alors docteur Julie, comme toutes les semaines, vous êtes allé fouiner sur les forums internet et vous avez trouvé la perle de la semaine. Alors la perle de la semaine, cette semaine, c'est Tata Caca du 56 qui a avalé l'alliance de son ami.
Oui, mon cher Loïc. Alors je vais vous lire le message de Tata Caca du 56. Bonjour. Je viens sur ce forum pour la première fois et je dois avouer avoir peur de votre jugement, même si je crois assumer pleinement la connerie que j'ai faite hier soir. Alors voilà. Après avoir ingéré une quantité d'alcool impressionnante pour toute personne dont le poids serait inférieur à 60 kilos, je décidais de faire une blague à mon amie. Une jeune femme à l'humour tranché, pleine d'empathie et dont la grâce me dépasse pleinement.
Je ne reconnais pas du tout la description du docteur Marion. Ouais, c'est ça qui est bizarre.
Je prenais la décision d'avaler son alliance pour la punir de ne pas avoir été invitée à son mariage, même si à l'époque, je ne la connaissais pas. Je lui dis alors, Madame M, ma chère amie...
M comme Marion, c'est bizarre.
Madame M, ma chère amie, comme il serait drôle de symboliser ma présence à ton mariage passé par l'ingestion du symbole de celui-ci. Je pourrais alors valider et approuver ton engagement par son absorption symbolique pour toujours et à tout jamais. Elle venait d'enlever sa bague pour me la montrer. Sans attendre sa réponse, j'avalais son alliance. Ma question est-ce dangereux ? Que faire ? Altruiste par nature et ne souhaitant creuser encore plus le trou sans fond de notre cher sécu, est-il nécessaire d'aller chez le médecin ? Amicalement et sincèrement vôtre, Tata Caca.
Allez, prenez des gants, mettez des gants et répondez à Tata Caca, docteur
Alors,
Julie.
Cher Tata Caca, l'ingestion d'un corps étranger est un incident relativement banal chez l'enfant. Enfin, pas de panique, il ne porte qu'exceptionnellement à conséquence. En l'absence de symptômes, il n'y a pas d'urgence immédiate, excepté si l'objet ingéré possède une toxicité propre, comme c'est le cas par exemple d'une pile bouton au lithium. Dans ce cas, il faut se déplacer aux urgences. La première chose à faire, c'est bien vérifier que l'objet est avalé et ne pas paniquer. Très souvent, quelle que soit la taille de l'objet, l'ingestion est sans symptômes. Généralement, le corps étranger s'élimine par voie naturelle au bout de 24 à 48 heures, 5 jours maximum. Vérifiez donc vos selles et attendez patiemment. Vous pouvez accélérer votre transit en buvant du jus de pruneau ou en avalant une cuillère à soupe d'huile de paraffine ou à défaut d'huile d'olive au coucher pour fluidifier la machine. Si l'objet n'est pas expulsé au bout de 48 heures, rendez-vous calmement à l'hôpital ou dans un cabinet de radiologie afin de pratiquer une radiographie qui localisera l'objet et vérifiera sa bonne progression dans le transit.
Moi j'avais juste une question, docteur Marion, est-ce qu'on peut voir vos mains ? Est-ce que votre alliance est là ? Donc l'alliance est de retour.
Elle est là. Est-ce qu'elle a disparu un jour ? On ne sait pas.
On ne sait pas. Ça pourrait être une brève de salle d'attente. D'ailleurs, justement, on y vient sur les brèves de salle d'attente. On part aux États-Unis. Et alors, aux États-Unis, une étude, une chercheuse américaine affirme que les hommes vont bientôt pouvoir
donner plus d'orgasme.
Donner plus d'orgasme ? Non.
Tomber enceinte,
avoir
oui.
un enfant, enfin, en tout cas être enceint, quoi.
Exact, être enceint. Alors, est-ce qu'on dit enceint, enceinte ? Enceint. Enceint, mais alors, techniquement, comment ça va marcher ?
Ben, on peut. Il y a peut-être un endroit dans le corps où justement.
On peut.
Ouais, alors j'aimerais bien savoir quel endroit. Quel endroit, docteur Julie ?
Implanté, en fait.
J'ai un enfant dans le poumon.
Ouais, dis donc, comment
je porte mon enfant dans le poumon ?
Oh, écoute, j'en ai plein la tête, moi, des enfants. Hein. Ben voilà, ça tombe bien. Alors, effectivement, ça serait. Alors, bon, alors, on parle de dans 5 à 10 ans chez les hommes pourraient devenir enceints et ça pourrait devenir réalité grâce à la greffe d'utérus. Alors, ça a déjà marché chez une femme. Il y a déjà une femme qui a accouché, en fait, suite à la greffe d'un utérus. Bon, pour les hommes, on n'y est pas encore, hein, parce que les anatomies sont quand même un petit peu différentes. Mais a priori, une chercheuse américaine, du coup, a publié un article qui dit, parle dans 5 à 10 ans, les hommes pourraient être enceints.
C'est wow. rapide.
Génial. Alors, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas, c'est pas 9 mois, hein. Ils ne vont pas être enceintes pendant 10 ans.
Non,
ça sera peut-être possible dans 10 ans. Allez, une bonne nouvelle pour le docteur Pierre Blandeau. Pierre Blandeau, un de nos confrères qui va pouvoir prendre sa retraite.
On lui dit bonsoir.
Et pourquoi ? Il était médecin généraliste en Vendée.
Pourquoi il peut prendre sa retraite ?
Eh oui, pourquoi il peut prendre sa retraite ?
Parce qu'il a travaillé.
Parce qu'il a fait un acte particulier.
Non. Alors il pouvait pas prendre sa retraite.
Ah, il n'était pas médecin reconnu au départ dans sa carrière.
Si, il était médecin reconnu, ce serait quand même un peu gênant. Oui, je vais chez mon médecin, mais il est pas médecin.
Oui, docteur Lulu.
Ah, parce que
docteur
Lulu, on connaît pas quelqu'un pour le succès.
Oh là 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 ! Le succédé. Voilà, le succédé.
Ma langue a fourché.
Exactement, c'est exactement ça. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de remplaçant. Vous connaissez le désert, la désertification médicale. Mm-hmm. Et donc, grâce à Facebook, il a trouvé un remplaçant. Voilà, un message qui a été partagé plus de 10 000 fois. Et eh bien voilà, c'est une bonne nouvelle pour le docteur Blandeau qui est en train de faire sa passation. On le salue.
Oui.
On le salue. Allez, Blandeau. C'est déjà la fin de petite consultation entre amis. On se retrouve la semaine prochaine, 17h30, 18h, à la technicarisation cet après-midi, notre Marseillais préféré, Étienne.
Merci.
Après nous, l'œil à l'écoute, 19h, Tropical Club. Plus d'infos sur www.radiocampus.org. On peut souhaiter un joyeux Noël à tout le monde.
Joyeux Noël.
On vous aime, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, ciao, salut.